Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guériec en direct de la capitale américaine. Vendredi 21 juin 2019, Le Monde aujourd'hui, édition de 18h30, temps universel. Au sommaire ce soir, Donald Trump dit avoir annulé au dernier moment des frappes contre l'Iran prévues hier, analyse en partie magazine. Le chef rebelle tchadien Mahamat Nouri devait être présenté aujourd'hui à des juges d'instruction parisiens, dans une enquête ouverte notamment pour crimes contre l'humanité. Les Algériens manifestent massivement contre le pouvoir en place pour un 18e vendredi d'affilée, et le gouvernement français a lancé un grand plan national pour lutter contre l'excision et les mutilations sexuelles féminines. Ne ratez pas les sports avec notre page spéciale sur la CAN, mais d'abord le journal. Actualité oblige, nous ouvrons sur l'Iran. Le président américain Donald Trump affirme ne pas être pressé de répondre militairement à l'Iran, expliquant avoir annulé au dernier moment des frappes prévues jeudi soir, car elles auraient notamment fait de nombreuses victimes, Bagassi Koura.
Dans une série de tweets matinaux, Trump a détaillé le déroulement de la soirée de jeudi. Nous étions armé et prêt à riposter la nuit dernière contre trois sites différents. Quand j'ai demandé combien de personnes allaient mourir, 150 personnes, monsieur, a été la réponse d'un général. 10 minutes avant la frappe, je l'ai stoppé. Ce n'était pas proportionné par rapport à une attaque contre un drone, a écrit le président américain. Jeudi, l'Iran a abattu un drone américain et, en selon Téhéran, violé son espace aérien. Les États-Unis affirment, eux, que l'appareil a été abattu dans l'espace aérien international. Je ne suis pas pressé. Notre armée est prête et de loin la meilleure au monde, a ajouté Trump, se félicitant que les sanctions américaines contre l'Iran soient, je cite, cinglantes. L'Iran ne sera jamais autorisé à avoir d'armes nucléaires, pas contre les États-Unis et pas contre le monde, a-t-il lancé.
Les États-Unis ont demandé la tenue lundi d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU pour parler des derniers développements liés à l'Iran dans le Golfe, d'après des sources diplomatiques. Sachez aussi que les compagnies aériennes Emirati, Etihad et Emirates ont annoncé qu'elles modifiaient les plans de certains de leurs vols dans la région du Golfe après qu'un drone américain eût été abattu par l'Iran au-dessus du détroit d'Ormuz. D'autres compagnies aériennes internationales telles que Lufthansa, KLM, Fly Dubai, Qantas, Singapore Airlines et Malaysia Airlines ont indiqué qu'elles évitaient désormais la zone en raison des tensions croissantes entre Iraniens et Américains. Nous y reviendrons en partie magazine de cette édition.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans l'actualité africaine, deux Tchadiens interpellés lundi en France, dont le chef rebelle Mahamat Nouri, devraient être présentés aujourd'hui à des juges d'instruction parisiens en vue de leur inculpation dans une enquête ouverte notamment pour crimes contre l'humanité. Ils sont soupçonnés d'avoir diligenté des opérations de recrutement forcé de combattants, dont des mineurs, au Tchad et au Soudan entre décembre 2005 et juillet 2010, a précisé le parquet qui a requis leur placement en détention provisoire. Une information judiciaire a été ouverte pour crimes contre l'humanité, complicité de ces crimes et participation à un groupement formé en vue de la préparation de crimes contre l'humanité, selon cette source. Nouvelle manifestation en Algérie aujourd'hui pour un 18e vendredi consécutif. Cette semaine a été marquée par de nouveaux propos du chef d'état-major de l'armée qui agite les spectres d'une destruction des institutions et du séparatisme. Claire Morin-Gibourg.
Ce matin, des dizaines d'arrestations ont eu lieu aux abords de la Grande Poste d'Alger, point de ralliement des grandes manifestations hebdomadaires contre le régime. Ces arrestations n'ont cependant pas pour autant découragé les manifestants. La mobilisation semble aussi forte que les semaines précédentes, malgré l'absence d'un comptage officiel. Des dizaines de drapeaux berbères étaient toujours visibles aux côtés des drapeaux algériens, malgré les avertissements du chef d'état-major de l'armée. Le général Ahmed Gaïd Salah a prévenu que seules les couleurs nationales seraient désormais autorisées dans les cortèges. Le drapeau de la minorité berbère symbolise les revendications identitaires longtemps ignorées ou réprimées par les autorités. Le général Gaïd Salah l'a répété, toute transition hors du cadre constitutionnel conduira à la suppression des institutions et à la destruction des fondements de l'État.
Mauritanie, la justification par le président Mohamed Ould Abdelaziz du maintien en détention au-delà de sa peine de l'auteur d'un billet de blog jugé blasphématoire a indigné son avocate. Elle appelle son futur successeur à régler en priorité ce dossier qu'elle qualifie de pourri. L'auteur de ce texte, Cheikh Oud Mohamed Ould Mektir, a vu sa condamnation à mort pour apostasie ramenée en appel à 2 ans de prison en novembre 2017 après avoir exprimé son repentir. Il aurait donc dû être remis en liberté, mais il a été placé depuis en détention administrative dans un lieu tenu secret, y compris de ses avocats. Monsieur Ould Abdelaziz a justifié cette situation par sa sécurité personnelle aussi bien que celle du pays. La situation était tendue ce vendredi au Malawi, où la police a encore fait usage de gaz lacrymogène contre des partisans de l'opposition réunis devant la haute cour qui doit statuer sur la recevabilité d'une requête en annulation de la présidentielle. L'armée est intervenue, mettant fin dans l'immédiat aux tensions, a rapporté un journaliste de l'AFP. L'opposition dénonce les résultats de l'élection du 21 mai, remportée de justesse par le chef de l'État sortant, Peter Mutharika, et a saisi la justice pour fraude. L'opposition éthiopienne met en garde les autorités d'Addis Abeba contre tout retard dans l'organisation des législatives de 2020, qui seront les premières sous le gouvernement du Premier ministre réformateur Abiy Ahmed. Les précisions de John Lyndon.
À l'origine des inquiétudes de l'opposition, l'annonce en début de mois par la commission électorale éthiopienne que l'insécurité, qui a fait quelque 2,4 millions de déplacés dans le pays, pourrait retarder les élections de l'année prochaine. Le recensement national a été différé à 2 reprises, sapant les efforts de constitution des listes électorales. Pour les opposants éthiopiens, tout retard ne fera qu'attiser les conflits régionaux, ce qui, disent-ils, porterait un coup aux promesses démocratiques du Premier ministre Ahmed. Une fois que le peuple commencera à exprimer sa colère, personne ne sera en mesure de le contrôler, a averti Merera Gidina, ancien prisonnier politique et leader du Congrès fédéraliste Oromo, parti d'opposition de la région Oromo. Les 100 millions d'Éthiopiens vivent des réformes sans précédent depuis l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed l'année dernière. Après 3 années de manifestations anti-gouvernementales qui avaient fait des centaines de morts, Ahmed a procédé à la libération de nombreux prisonniers politiques et journalistes, de même qu'il a levé l'interdiction des partis d'opposition et traduit en justice des personnalités accusées de violation des droits humains. Retarder les élections pourrait compromettre toutes ces réformes, avertissent les opposants.
Et on termine cette page Afrique sur une actu culture. Prête-moi ton rêve, une exposition itinérante d'art contemporain africain réunissant de grands artistes du continent a été inaugurée cette semaine à Casablanca, au Maroc. C'est la première étape d'une tournée qui l'amènera au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, en Éthiopie et en Afrique du Sud. L'objectif est notamment de montrer l'Afrique en elle-même, par elle-même, sans regard exogène et sans chercher la validation des pays occidentaux. Dans le reste du monde, coup d'envoi ce vendredi en France d'un grand plan national d'action contre l'excision et les mutilations sexuelles féminines. Il prévoit notamment la prise en charge des victimes et aussi le repérage des personnes à risque. Les précisions de Michel Joseph.
Entre 40 000 et 60 000 femmes excisées vivent en France, en majorité des ressortissants de pays comme le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou encore la Guinée, affirment les autorités françaises. Ces pratiques sont des atteintes inadmissibles à l'intégrité et aux droits fondamentaux des femmes et des petites filles qui en sont victimes, a fait savoir la secrétaire d'État française Marlène Schiappa. Aucune tradition ne saurait être évoquée pour les justifier, a-t-elle souligné. L'initiative lancée par Mme Schiappa améliorera l'appui aux victimes, notamment à travers des chirurgies réparatrices. L'aspect santé mentale sera également pris en compte. En outre, les professionnels de la santé sont encouragés à signaler les cas de mutilation ou les personnes à risque, ce qui pourrait déclencher une enquête judiciaire si nécessaire. Les autorités françaises se proposent par ailleurs d'agir en direction des pays où les mutilations sexuelles restent courantes. Cela se fera en partenariat avec les acteurs locaux pour un renforcement de l'information et de la protection des victimes.
Attentat suicide qui a fait 2 morts et 10 de blessés dans une mosquée chiite de Bagdad en Irak. C'est d'après les services de sécurité irakiens. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Et on enchaîne sur les sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Morgan et bonsoir à tous et à toutes. Ça y est, nous y sommes. Le jour J est arrivé. La CAN Égypte 2019, cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations commence donc ce soir pour s'étendre jusqu'au 19 juillet, jour de la finale. Vous le savez, c'est une première CAN à 24 équipes, une première aussi en été et direction tout de suite le Caire pour retrouver Amdine Si, notre correspondant à Dakar qui est présentement sur place au Caire. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Alors Amdine, dites-nous, quelle est l'ambiance qui prévaut dans la capitale égyptienne à quelques 2 heures hein, du début de la cérémonie d'ouverture au stade international du Caire?
Oui, le Caire vibre au rythme de la CAN, Yacouba, car le grand jour est arrivé pour l'Égypte, car on sait que la CAN va débuter dans moins de 2 heures de temps, une CAN que l'Égypte organise au pire des ans, parce que l'Égypte a été désignée pour organiser cette CAN au mois de novembre dernier. Donc l'Égypte qui s'apprête quand même à accueillir la crème du football africain, cette compétition qui se déroule pour la 4e fois de l'histoire en Égypte. Et c'est une première là, vous l'avez quand même dit, puisque c'est pour la première fois de l'histoire que cette CAN se jouera avec 24 équipes et pour l'histoire ce sera sur les bords du Nil. Comme vous l'avez dit tantôt, on s'apprête à organiser quand même la cérémonie d'ouverture.
Merci beaucoup Amdine Si, nous allons vous retrouver dans nos prochaines éditions. C'était donc Amdine Si depuis la capitale égyptienne. Quels sont les enjeux de cette CAN 2019 qui se tient enfin en Égypte après beaucoup de polémiques sur le retrait de la compétition au Cameroun et les bisbilles au sein de la Confédération africaine de football? Jules Valentin Ngoué nous en parle dans son coup de sifflet depuis Libreville au Gabon.
Bonsoir. Jamais Coupe d'Afrique des Nations n'avait posé avec une telle acuité exponentielle autant de problèmes cumulés avant son démarrage que cette 32e CAN de la CAF, spécifiquement confiée à l'Égypte, qui n'en demandait pas tant. Les multiples défis soulevés sont là pour l'attester. D'abord, au niveau de l'organisation et de l'image, où le Gabon avait présenté une copie parfaite en 2017, le pays des pharaons, après avoir fait une cérémonie de lancement menée de main de maître au pied des pyramides de Gizeh, doit aussi réussir le test du passage à 24 nations, ce qui n'est pas évident si on sait que 3 des 6 poules se retrouvent dans le périmètre urbain de la très encombrée mégalopole du Caire, où 25 millions d'âmes seront à gérer pour la circonstance pendant un mois, tout comme des milliers de supporters et touristes étrangers à encadrer et à rassurer. En effet, le second défi, et non des moindres, est celui de la sécurité, identifié dès le départ comme le talon d'Achille de la candidature égyptienne, avec les violences récurrentes dans le Sinaï et même au Caire. La mort en détention de l'ex-président islamiste Mohamed Morsi, à 3 jours du démarrage de la compétition, vient amplifier la question. Pour preuve, la décision du gouvernement égyptien de monter d'un cran son dispositif d'urgence avec pas moins de 120 000 policiers retenus. Enfin, le troisième défi, le plus pernicieux, est d'ordre moral. Comment faire oublier les bavures récentes de la direction de la CAF, dont l'épilogue honteux de la finale de sa Ligue des Champions, ou l'interpellation dégradante de son président en France, digne d'une image sortie d'un film sur l'époque de la prohibition dans les années 30 aux États-Unis, en souhaitant qu'une interférence sécuritaire n'intervienne pas, seule la qualité et l'équité de la production sportive sur les terrains est à même de tout remettre à flot et ramener la sérénité dans un football africain où la CAN est avant tout une fête flamboyante. Or, tous les ingrédients sportifs sont présents en Égypte pour que ce soit le cas. Tous les cadors sont là, ainsi que les puissances émergentes. Et le hasard du calendrier a aussi voulu que lors d'un authentique match-piège en guise d'ouverture ce vendredi, le septuple champion égyptien affronte une brillante formation zimbabwéenne en pleine ascension. Vivement que la fête commence et que le jeu reprenne ses droits. À bientôt.
Voilà pour les sports. Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Le président Donald Trump a indiqué ce matin avoir renoncé, au dernier moment, à des représailles contre l'Iran. Il dit n'être pas pressé de répondre à la destruction par Téhéran d'un drone américain hier. Les Iraniens affirment que l'appareil était dans leur espace aérien, ce que Washington dément catégoriquement. Comment expliquer cette montée de la tension entre les États-Unis et l'Iran ? Abdourahmane Dia a posé la question à l'ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, Herman Cohen.
Il faut regarder le commencement de cette affaire. Quand il est arrivé à la Maison-Blanche, président Trump a renoncé à l'accord que président Obama a fait sur le nucléaire avec l'Iran. Et il a imposé des sanctions économiques contre l'Iran. Et la population iranienne souffre beaucoup. Et aussi, il paraît que les Iraniens ont fait exploser des bombes contre deux bateaux dans les étroits de Hormuz. C'est-à-dire ils ont menacé d'interrompre le trafic dans l'étroit de Hormuz, qui est très important pour le pétrole. Donc, président Trump a décidé d'envoyer une grande flotte dans la région.
Le président Trump a tweeté ce matin qu'il avait renoncé à des représailles car il ne voulait pas de pertes humaines. Pourquoi tant de retenue de la part du président Trump pour cette fois-ci?
D'abord, quand il a fait campagne pour être élu, il a dit « Je n'aime pas ces guerres interminables dans le Moyen-Orient. Je ne veux pas entrer dans de nouvelles guerres. » Donc, il a réfléchi, il a dit « Si j'envoie des bombes sur l'Iran maintenant, je tue des gens, nous allons rentrer dans une nouvelle guerre, je ne veux pas ça. Et quand je prépare mon élection pour l'année prochaine, je trouve que le président Trump a pris une décision assez raisonnable là.
Malgré tout, le risque de confrontation est là, la tension est là, et comme vous le dites, l'Iran souffre économiquement. Quels sont les risques?
Oui, l'Iran a des amis dans le pays. Ils ont Hezbollah au Liban, ils ont Hamas en Palestine. Donc, ils soutiennent le régime d'Assad en Syrie. Il y a un risque qu'on attaque des intérêts américains dans ces pays-là. Et à mon avis, c'est le moment d'arriver de négocier. Président Trump lui-même a dit... Il faut parler. Et les Iraniens ont dit non. Mais je crois que maintenant que président Trump a fait un geste, il n'a pas fait une rétaliation, je crois que c'est le moment d'arriver de négocier.
L'ancien diplomate Herman Cohen, joint ici à Washington. Et nous mettons maintenant le cap sur la Mauritanie, où les électeurs sont appelés aux urnes demain, samedi, pour élire leur président dans ce pays de 4,5 millions d'habitants. La campagne s'est achevée hier soir. Le président Mohamed Ould Abdelaziz, arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2008, est interdit de troisième mandat par la Constitution. Le chef de l'État sortant se dit toutefois convaincu que son dauphin sera élu dès le premier tour. Mais les cinq adversaires du candidat au pouvoir estiment que la majorité des Mauritaniens ont envie de tourner la page. Ils ne manquent pas non plus de dénoncer des risques de fraude. De Nouakchott, le reportage de notre envoyé spécial, Isha Sarai.
Cinq candidats espèrent récolter plus de votes que le candidat du parti au pouvoir, l'ancien ministre de la Défense, Mohamed Ould Ghazouani. Le principal candidat de l'opposition, Sid Mohamed Ould Boubacar, affirme que les changements dont le pays a besoin ne se réaliseront pas si Ghazouani est élu.
Pour moi, il doit y avoir une véritable alternance. Parce que la situation actuelle de mon pays est une situation catastrophique. La situation économique est très grave, la situation sociale aussi.
Les électeurs, surtout les jeunes, sont mobilisés pour ces élections, d'autant qu'ils les perçoivent comme très ouvertes. Mais beaucoup d'entre eux sont préoccupés par la question de la transparence du scrutin. Et ils craignent que la commission électorale ne favorise le parti au pouvoir. Lo Gourmand, professeur de droit, dit que Ghazouani a actuellement tous les moyens de l'État pour sa campagne.
Quand vous avez un candidat qui lutte, qui veut être rival en compétition avec un candidat du pouvoir, notamment avant c'était Oulam Abdelaziz par deux fois, ou bien actuellement Razouani, il y a tous les moyens de l'État d'avoir l'argent. Donc tout ce monde-là, ce qu'on appelle l'administration publique ou l'administration d'État, est carrément au service du candidat que présente le pouvoir.
L'éducation, le chômage et les divisions sociales sont parmi les questions les plus pressantes pour les électeurs mauritaniens. Hawa Mamadou Dia, étudiante, espère que les jeunes s'engagent en politique.
Il faut savoir avoir les bases sur lesquelles on les choisit, que ce ne soit pas juste par des bases ethniques ou communautaires, mais aussi des bases quelqu'un qui pourra diriger notre pays et qui pourra résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant que jeunes et étudiants dont nous sommes conscients aujourd'hui.
Bachirou Malikba, étudiant, craignait qu'il ne trouve pas du travail après ses études.
Je pense que ce qui est plus important pour les jeunes, c'est l'emploi. C'est l'emploi et l'éducation.
Les Mauritaniens sont-ils assez motivés pour tourner le dos au parti de l'actuel président? La réponse viendra des urnes au terme de la journée de vote ce samedi. Isha Sarai, VOA Afrique, Nouakchott.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Personnes ont été arrêtées en 5 mois dans une vaste opération coordonnée par Interpol et Europol visant le trafic de boissons et d'aliments potentiellement dangereux. L'opération qui a impliqué les polices de 78 pays, y compris en Afrique, a permis la saisie de plus de 117 millions de dollars de produits aux dates falsifiées, contenant des substances dangereuses, stockées dans des conditions sanitaires illégales, des produits frelatés ou des produits contrefaits. Pour connaître l'ampleur du phénomène en Afrique, Nathalie Barge a joint le président de l'Association togolaise des consommateurs, Benetti Gagalou.
C'est un problème qui se vit en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, en ce qui concerne les produits frelatés, contrefaits, etc. Nos douanes sont tellement poreuses que les produits passent sans contrôle. Les douaniers disent qu'ils ne sont pas formés pour le contrôle de qualité des produits à la frontière. Donc ça fait que les choses rentrent. Et nous, au niveau de notre organisation, nous continuons par faire des plaidoyers pour que, au niveau même régional, que les douaniers soient formés en matière de qualité des produits. Il y a souvent les liqueurs frelatées, les médicaments que nous appelons médicaments de rue. Même les huiles de table sont contrefaits. En temps, il y avait la farine de blé également. Et chez nous, au Togo, il y a ce problème des eaux en sachet que nous appelons souvent des piowata. La plupart ne sont pas de bonne qualité.
Est-ce que vous avez affaire en Afrique à des réseaux?
Effectivement, il y a des réseaux. Nous faisons du plaidoyer au niveau du gouvernement pour essayer de démanteler ces réseaux, surtout au niveau des médicaments de rue. Je crois qu'il y a un effort qui est fait.
Vous avez parlé des problèmes de contrôle aux frontières en Afrique. Toutefois, est-ce que le gouvernement lui-même pratique des contrôles sérieux chez les commerçants ou autres au Togo même, au plan national?
J'essaye, mais c'est là où il faut vraiment revoir les choses par rapport au contrôle de qualité. Franchement, il reste beaucoup à faire à ce niveau.
Alors, quelles sont les mesures à envisager en matière de protection des consommateurs?
Oui, d'abord, il y a une loi, la loi 92-011, portant organisation de la concurrence et de la consommation, qui protège les consommateurs. Il y a des codes, mais nous disons que c'est très insuffisant et nous ne cessons de sensibiliser même les populations. Par exemple, en allant acheter des produits, de bien vérifier les dates de péremption, etc. On a pu mettre la main sur une dame, une commerçante, qui effaçait les dates et changeait les dates de péremption sur les produits, des boissons, etc. Et ensemble avec la police judiciaire, on a pu mettre la main sur cette dame qui a été envoyée en prison. Et c'était une première fois, donc c'était 6 mois. Elle a fait les 6 mois, elle a payé l'amende. C'était déjà un point. Mais nous continuons, au niveau de l'Association togolaise des consommateurs ATC, nous continuons par nous battre quand même pour des tests pour décourager ce genre de comportement.
Le président de l'association togolaise des consommateurs, Benetti Gagalo, joint à Lomé.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
La 32e Coupe d'Afrique des Nations démarre ce vendredi en Égypte. Pendant un mois, l'Afrique va vibrer au rythme de la compétition qui se joue pour la première fois à 24 équipes. Au Nigeria, la ferveur monte et tous rêvent d'une victoire des Super Eagles à l'issue de ce grand rendez-vous continental. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Je suis vraiment heureux ce soir parce qu'on est allé à la CAN, on a vu, on a joué et on a vaincu. Et on rentre à la maison avec la coupe en or. Je suis trop heureux.
Cela s'est passé en 2013 lorsque le Nigeria a remporté sa dernière Coupe d'Afrique des Nations à Johannesburg en Afrique du Sud contre le Burkina Faso. Au total, le Nigeria a remporté 3 fois la CAN et a participé 6 fois à la Coupe du Monde. Seul le Cameroun a mieux fait avec 7 participations. Cette édition sera la 18e participation des Super Eagles à la CAN. Malgré ces records de participation, le pays n'a soulevé que 3 fois le trophée continental en 1980, 1994 et 2013. Salissou Moussa est analyste sportif.
Le problème est qu'ils manquent le désir de gagner pour leur pays parce qu'ils pensent toujours à leur club en Europe. Nous avons un grand nombre de joueurs de qualité dans notre Ligue nationale, mais à ma grande surprise, ils ne figurent pas au sein des Super Eagles comme c'était le cas en 1994. Avec seulement 3 joueurs professionnels, nous avions gagné la Coupe.
Dans les rues d'Abuja, les attentes sont énormes alors que les Super Eagles reviennent à la phase finale après avoir manqué celle de 2015 et 2017.
Je m'attends à ce qu'ils fassent quelque chose de mieux que ce qu'on a vu jusqu'ici. Même s'ils doivent ramener la coupe, mais je m'attends à une prestation exemplaire qui doit être différente de ce qu'on a vu avant.
S'ils peuvent se référer à l'histoire autant des joueurs comme Amokachi et Rachidi Yekini, si on peut leur apprendre cette idéologie, cet esprit de combat, le Nigeria pourra atteindre un bon niveau.
Nigeria could have gone a better place.
Tout ce que j'attends d'eux est le meilleur d'eux-mêmes. Ils doivent aller gagner, pas de défaite. Tout ce que je veux, c'est la victoire à chaque match, pas plus, pas moins.
Le Nigeria a atterri en Égypte avec 20 joueurs qui feront leur début au tournoi. Le capitaine John Obi Mikel, Ahmed Moussa et Kenneth Omeru sont les seuls survivants de la promotion de 2013. L'entraîneur du Nigeria, Kenneth Rohr, a minimisé les chances de son équipe de remporter un 4e titre à la Coupe d'Afrique des Nations de 2019 en Égypte. Notre objectif en ce moment est de rester humble et de ne pas être trop excité, a souligné l'entraîneur du Nigeria, Gilbert Tamba Abuja, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Cheikh Tiro, à la présentation Morgane Guerriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
VOA Afrique.